A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Il est né là-bas, au pays du jasmin. Il vit ici, au pays du petit vin blanc. Mais ce n'est pas les bras chargés de fleurs que Fethi Benslama nous rend visite en sol majeur. Cet enfant de Kairouan, en Tunisie, aujourd'hui psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique à l'Université de Paris Diderot, s'est très vite penché sur la clinique de l'exil et la santé des migrants fin des années 80. Et puis, les guerres du Moyen-Orient et le 11 septembre ayant fait leur œuvre dans la psyché de la communauté musulmane, il planche désormais sur le fait religieux. Auteur de La psychanalyse à l'épreuve de l'islam et la virilité en islam, il nous aide à penser la menace djihadiste. Avec ce diagnostic, la radicalisation est un symptôme social psychique, bien explicité dans cet essai paru au Seuil, un furieux désir de sacrifice, le surmusulman. Fethi Benslama, bonjour.
Bonjour.
Et Benslama. Aslama.
Oui, Aslama.
Aslama.
Oui,
Aslama. Une question en préambule. Est-ce que vous pensez que votre double appartenance à la culture arabo-musulmane et occidentale est forcément un plus, même une condition, je dirais, au bon décryptage du fait religieux aujourd'hui ?
Oui, je pense, parce que lorsqu'on a cette double culture, la langue surtout, et on a accès de première main au texte, donc au discours. Et donc ça facilite beaucoup, beaucoup les choses. Et je crois même que ceux qui n'ont pas accès à ça peinent beaucoup. Et ils ont besoin de traducteurs pour avancer. Donc oui, il y a un avantage.
J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous.
J'ai... comme Genèse.
D'où vient cet islamisme, cet islam politique, comme on dit en Occident ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai bien compris en vous lisant, Fethi Benslama, qu'il fallait en passer par la Genèse. On entendait à l'instant la voix d'Abou Bakr al-Baghdadi, djihadiste irakien, calife de l'État islamique à partir de 2014. Un petit peu d'histoire à votre bras, ce désir de reconquête musulmane, vous nous expliquez qu'il a connu en fait plusieurs événements majeurs à partir des années 70.
Oui, les années 70 sont des années tournant, mais il faut remonter encore plus avant. Je crois que l'idéologie de l'islamisme et du djihadisme a commencé avec l'entrée des Lumières dans le monde musulman. Là, il y a eu au cœur des musulmans de l'époque, les plus instruits, une division interne. Et le début, ce que moi j'appelle une guerre civile à l'intérieur de l'islam, puisque avec l'entrée des Lumières, les élites musulmanes se sont divisées entre ceux qui étaient partisans des Lumières, en tout cas de l'emprunt d'un certain nombre d'inventions des Lumières, et notamment des inventions politiques, ça c'est très important, et ceux qui étaient des anti-Lumières, opposés au nom de la sauvegarde de l'islam. Donc c'est une réaction qui a été une réaction très très forte dès le départ, une réaction qu'on pourrait qualifier d'auto-immunitaire, à tous les sens du terme d'auto-immunitaire. Dans l'auto-immunitaire, il faut entendre l'idée qu'on se défend au point même de s'autodétruire, tellement la défense est vigoureuse.
Absolue.
Absolue.
Alors, dans cette revisitation de l'histoire que vous nous proposez, Fethi Benslama, vous nous expliquez en fait que l'invention de l'islamisme, je reviens dans le temps, est fondée en fait sur la pensée d'un théologien sunnite kurde de Turquie du XIIIe siècle, un certain Ibn Taymiyyah.
Oui.
Pour lequel, je le cite, il n'y a pas d'autre politique que la religion.
Absolument.
Voilà. Et sa pensée, qui en appelait évidemment au djihad le plus radical, a eu un écho absolument retentissant sur les théologiens du 18e et du 19e, au moment de la campagne d'Égypte de Napoléon, qui lui se voulait à ce moment-là un conquérant quand même respectueux de l'islam.
Oui. Alors vraiment, ça, on voit bien que l'histoire, ce sont des rebonds dans lesquels la question des traumatismes des peuples, des grands traumatismes jouent un rôle. Parce que Ibn Taymiyyah arrive au moment de l'invasion mongole. du saccage de Bagdad. Et donc, lui, c'est un théologien qui va mettre en œuvre une théologie de la guerre et de la résistance. Il trouve dans les textes coraniques et dans les hadiths, c'est-à-dire la conduite du prophète, de quoi affirmer une idée qui est que dans l'islam, il n'y a pas de politique, il n'y a que la religion. Aujourd'hui, on parle d'islam politique, mais c'est une notion fausse.
C'est un non-sens, presque.
C'est un non-sens, parce qu'on confond la quête du pouvoir avec le politique, mais toute quête de pouvoir n'est pas nécessairement politique. Le politique, tel qu'on l'entend dans son invention moderne, suppose des lois qui sont les lois humaines. Or, ce que dit Ibn Taymiyyah, c'est que les lois qui doivent gouverner la cité sont les lois de Dieu. Donc, nous ne sommes pas dans le politique, nous sommes dans le religieux. Et ça serait un contresens aujourd'hui de continuer à parler de politique pour les mouvements qui veulent imposer les lois coraniques.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur cette période de Napoléon qui est importante et qui est sans doute un tournant aussi dans les relations entre l'islam et l'Occident. Vous rapportez, Fethi Ben Slama, à quel point les Français, aux yeux des théologiens de l'époque, ne sont pas du tout crédibles d'un point de vue religieux. Et vous rapportez cet épisode relaté par le Courrier d'Égypte du 22 décembre 1798 qui se déroule au cours d'un dîner entre les chires du Caire et Napoléon.
Le dîner a été précédé et suivi de la conversation. Le général Bonaparte a dit au Cher que les Arabes avaient cultivé les arts et les sciences du temps des califes, mais qu'ils étaient aujourd'hui dans une ignorance profonde et qu'il ne leur restait rien des connaissances de leurs ancêtres. Le Cher Sadat répondit qu'il leur restait le Coran, qui renfermait toutes les connaissances. Le général demanda si le Coran enseignait à fondre le canon. Tous les chers présents répondirent hardiment que oui.
Donc vous dites là, Fethi Ben Slama, que l'islamisme prend éventuellement sa source dans ce moment d'histoire. L'humiliation musulmane prend sa source ici.
Oui, c'est une scène originaire, on peut dire, extraordinaire, dans laquelle cet occidental venant à la conquête, se prétendant être lui-même musulman, Napoléon dit que cette religion est pour lui est importante, etc. Il n'était pas cru du tout, du tout. Et qui confronte tous ces cheikhs du Caire à la puissance occidentale, à la puissance technique, le canon. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez plus rien. Et eux lui disent, mais nous avons le Coran. Et y compris donc de quoi faire le canon. Ça veut dire que dans le Coran, il y a tout. Ça veut dire que déjà, à ce moment-là, le Coran apparaissait la réponse à tout. C'est-à-dire que...
C'est une réponse aussi à une impossibilité d'autres réponses.
Absolument. Ah, ils sont vaincus. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste? Mm-hmm. Donc, c'est vraiment là le lieu de la confrontation, de la victoire de l'Occident et de ce qui a été vécu et jusqu'à aujourd'hui, le Coran comme dernier recours.
Alors c'est aussi à ce moment-là que les Français des Lumières arrivent avec peut-être leur canon, mais aussi un concept, celui de la nation et de la patrie, ce qui va sans doute bousculer le concept de la Oumma, de la communauté.
Ah oui, tout à fait. Et cette bousculade va se conclure un peu plus tard, avec la fin de l'Empire et la division des provinces de cet Empire.
L'Empire ottoman,
en État-nation. Mais déjà, une certaine partie de l'élite des mondes musulmans va comprendre que le renouvellement politique passe par l'adoption de cette forme nouvelle de l'État-nation. Et ils vont devenir nationalistes, ils vont reprendre les mots du nationalisme.
Avec le Coran, pas très loin.
Oui, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais cessé d'être croyants. C'est ça, c'est pas une lutte entre les, comme on dit aujourd'hui, entre les laïcs et les... Non, c'est un combat entre ceux qui pensent qu'il y a dans les Lumières de quoi, tout en restant musulmans, réformer le système politique, le système du pouvoir, et d'autres qui pensent qu'il ne faut pas laisser un seul rayon de cette lumière pénétrer parce qu'il allait détruire et subvertir le sujet coranique, on peut dire. Et ce combat se continue en fait aujourd'hui sous diverses formes, mais je crois qu'il prend une signification particulière avec un acte, l'acte d'un théologien. qui s'appelle Mahmoud Taha, un Soudanais, qui a été exécuté dans les années 80, et qui, lui, va prendre le Coran et le diviser en deux parties. Une partie qu'il considère la partie spirituelle, qu'il pense qu'il faut garder, et une partie dans laquelle il y a tous les passages qui servent à gérer la cité islamique de l'époque. Et dont il dit, celle-là, elle est obsolète. C'est un acte extraordinaire. Mm-hmm. Et enfin, aujourd'hui, cette division entre le spirituel et ce qui doit gérer la cité, ben, c'est ça la division qui donne lieu aujourd'hui à toutes les guerres civiles dans le monde musulman.
Et c'est là que vous, psychanalyste, Fethi Ben Slama, vous arrivez, chevauchant sur les ailes de l'inconscient, avec ce concept de surmusulman, à l'image peut-être de Omar. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est l'un des principaux recruteurs français pour le djihad en Syrie. On écoute pour en sol majeur une de ses recrues.
Il n'y a pas longtemps, il y a eu un franc. Il y a eu un franc, alhamdoulilah, et on a participé à ce franc. Et j'ai utilisé ma kalach. Quand je voyais l'ennemi d'Allah, je visais avec ma kalach. Et Allah, c'est lui qui tire. Et je visais l'ennemi d'Allah. Et alhamdoulilah, j'en ai tué. Par la grâce d'Allah. Et voilà. Je vais rester ici jusqu'à atteindre mon objectif. Le Firdaus al-A'la, le martyr, Inch'Allah. Qu'Allah nous l'accorde.
M comme martyr.
Oui, alors il y a des nouveaux mots qui sont rentrés comme ça dans notre cité, martyr, musulman, surmusulman. Vous allez nous dire ce que c'est qu'un surmusulman pour vous, Fethi Ben Slama. Mais d'abord, une petite remarque. Vous dites que l'impératif du surmusulman n'est pas « devient », mais « revient ».
Oui, tout
Qu'est-ce
à fait.
Que ça veut dire
bah, c'est-à-dire, revient à ce qui est supposé être le fondement. Ce qui signifie que beaucoup de musulmans ont quitté ce fondement. Ils l'ont perdu de vue. Et donc, d'une certaine manière, ils doivent se reconvertir.
Se reconvertir à un islam plus radical
À un islam qui serait plus fondamental et qui n'est pas celui de la tradition. Parce que la tradition, comme le mot l'indique, suppose l'éloignement de ce moment du fondement. La tradition, c'est quelque chose qui est dans le fait qu'il y a de la transmission et que, avec le temps, on s'éloigne justement du fondement. Or, le fondamentalisme veut l'élimination de la tradition. Il veut revenir à l'ancêtre premier. Hein, c'est ça, le salafisme, c'est revenir. C'est pour ça que le revient. C'est revient à ce moment-là.
Donc le surmusulman est quasiment dans l'irrationnel. Ce serait quoi votre définition alors du surmusulman ?
Alors le surmusulman, c'est quelqu'un qui essaie de devenir plus musulman que le musulman qu'il est ou que le musulman qui est à côté de lui. Il veut acquérir une puissance religieuse qui lui permet, de son point de vue, de trouver la paix et la sérénité. En fait, il est le lieu d'un combat entre une partie en lui-même, un musulman qu'il considère devenu pas assez musulman, qui est même devenu dans certains cas renégat, infidèle, traître, coupable, et un autre musulman qui est interne aussi, qui veut vaincre ce musulman renégat faible. Et dans ce combat, il sort victorieux lorsque il pense avoir fait taire ce musulman renégat infidèle. Mais pourquoi est-ce qu'il existe ce musulman renégat fidèle ? Ben parce que, infidèle, parce que tout simplement, le mode de vie de tous les musulmans s'est occidentalisé.
Mais du coup, on se demande pourquoi ces salafistes font le choix de vivre en Occident, car il y en a qui font ce choix.
Oui, alors ça, c'est... Ben, ce qu'on comprend, c'est que souvent, le fondamentalisme est l'effet non pas des gens qui ont migré, mais ce sont leurs descendants. Et leurs descendants considèrent que ceux qui ont migré ont, d'une certaine manière, trahi.
Échoué. Donc il y a un rachat de destin, un rachat d'identité.
Plus que cela, il y a une hantise d'infidélité, un défaut de filiation, de transmission et de filiation. La radicalisation est en fait, dans beaucoup de cas, une souffrance de ne pas être digne de la filiation dans laquelle on est. Donc c'est un trouble de la filiation.
Si on donne un chiffre, Fethi Ben Slama, qui est basé sur le rapport Pietrasan de 2015, les deux tiers de la population radicalisée ont entre 15 et 25 ans. Alors, je ne sais pas si dans votre cabinet de psychanalyste, Fethi Ben Slama, vous croisez beaucoup de Mohamed Merah. On a eu récemment le procès de son frère, Abdelkader Merah. Je ne sais pas si vous le classeriez dans la catégorie des surmusulmans. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête d'un djihadiste pour qui l'autre n'apparaît plus comme son semblable. Hein, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Comment le travail analytique peut-il reconstituer, c'est compliqué d'en parler à la radio comme ça rapidement, mais reconstituer cette identification à l'autre? Et est-ce que les psychanalystes arrivent, peuvent faire revenir dans le cercle de la vie ces candidats au djihad?
Je crois qu'il faut distinguer d'abord deux choses. Tous les djihadistes ne sont pas des terroristes et des tueurs de civils. Et il faut distinguer. Il y a des gens qui font le djihad, ils vont faire le combat armé.
Est-ce que vous savez détecter ça, vous, quand vous avez un patient en face?
Non, de vous? Pas toujours. Et c'est une chose difficile. Et puis, il y a les tueurs qui n'attendent que l'autorisation de tuer. Et le terrorisme est plutôt de ce côté-là. Parce qu'un homme qui combat pour sa cause et qui va sur le terrain de guerre, se bat avec une armée, ça, c'est quelque chose d'autre. C'est un soldat. Même si on ne le reconnaît pas. Mais celui qui vient tuer des civils de son propre pays, c'est un tueur. Et c'est le cas d'un Merah. Merah, il ne fait pas le djihad. C'est un djihad qui tourne au massacre. C'est un massacreur. Massacrer des enfants. Ou celui qui rentre dans le Bataclan et se met à tuer, à massacrer. C'est un massacreur. Maintenant, est-ce que la méthode psychanalytique permet à des jeunes de sortir de la radicalisation? Eh bien, moi, je pense que oui, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, parce que l'enjeu de la radicalisation, c'est pas le discours, c'est la violence. Il y a des gens qui sont radicalisés dans le discours, mais ils ne sont pas des gens qui passeront à l'acte. Et donc là, nous avons à discerner entre plusieurs sortes de radicalisation, ce qui n'est pas aujourd'hui souvent le cas. On parle de radicalisation comme quelque chose de général. Il y a des jeunes pour qui la radicalisation est un moyen de s'affirmer et qui n'ont pas nécessairement ces pulsions violentes. Avec eux, il y a un travail possible. Un travail qui consiste à les amener à reconnaître leur histoire, voir que le choix de la radicalisation est un habillage, en fait, de leurs vrais problèmes.
Le divan est encore tout chaud, Fethi Ben Slama. La position allongée vous concernant, hein, c'est pour la deuxième partie.
Oui.
Avec maintenant un petit trésor musical, signé Anouar Brahem, grand compositeur tunisien d'ailleurs, hein, qui se balade pas mal entre deux rives musicalement. Et là, on va le retrouver avec Yann Garbarek. Vous écoutez beaucoup Anouar Brahem?
Oui, parce que je trouve que c'est un homme qui a réussi à faire ce que moi je pense est aujourd'hui une des grandes voies de l'art, l'hybridation.
Pour se promener entre ciel et terre avec Fethi Ben Slama, psychanalyste franco-tunisien, qui fait sa diva sur le divan pendant 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Il y a comme un furieux désir en sol majeur à écouter Fethi Benslama nous parler en psychanalyste du surmusulman. C'est ce qu'il vient de faire en première partie. Membre de l'Académie tunisienne et professeur de psychopathologie clinique à l'Université Paris Diderot, on sent dans la phrase de cet essayiste bilingue et franco-tunisien la présence d'une sentinelle. Auteur d'une certaine déclaration d'insoumission, sa présence me rappelle une citation de Shakespeare. Shakespeare qui dit « La mémoire est la sentinelle de l'esprit ». Macbeth. Est-ce que vous êtes plus théâtre élisabétain ou plus mythologie grecque ?
Ah, les deux à la fois, parce que la psychanalyse a ses racines dans Shakespeare. L'inspiration première de Freud a été Shakespeare et le théâtre de Shakespeare. Et là déjà, avant même qu'il devienne le clinicien, le médecin, etc., c'est là qu'il a puisé ce savoir que nous appelons en psychanalyse l'autre scène, c'est-à-dire la scène de l'inconscient, celle qui n'est pas à l'extérieur mais qui est à l'intérieur de chacun. Mais cette scène intérieure est peuplée de représentations, de fantômes, beaucoup de fantômes.
Est-ce que vous avez des fantômes vous-même littéraires qui vous servent pour votre travail de psychanalyste ?
Bien sûr, toute cette, je suis héritier de Freud, mais j'ai beaucoup de fantômes aussi de la tradition arabe. Et même quand j'étais en Tunisie, c'était ma préoccupation et mon intérêt était tourné plutôt vers la littérature et la poésie arabe. C'est mon sol.
Menthe. Paprika. Fraise de bois. Quelles sont les odeurs de votre enfance ?
Ah. Les odeurs de mon enfance sont... J'ai vécu à Kairouan, moi. Et cette ville, bon, c'est les odeurs qui se dégagent d'abord de tout ce qu'on met, les encens, tout ça, mais aussi de les odeurs qui viennent pendant le mois de Ramadan de la nourriture. Mais ensuite, il y a aussi les odeurs qui sont liées aux toilettes des femmes.
Et alors ?
Qui ne sont pas.
Quoi,
je me souviens par exemple de l'odeur avec laquelle on fait les petits tatouages noirs qu'ils font griller, mélanger. C'est tout noir et c'est une odeur d'une subtilité absolument extraordinaire.
Et c'est des tatouages sur la peau, sur le
sur
visage.
Sur la peau, sur le visage, voilà.
Alors il y a les odeurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tatoué dans l'âme, sans doute, une empreinte sonore de votre enfance qui peut-être ressemble à ça.
À la base de tant de succès, c'est la stabilité du régime. C'est la force de ce régime. Et vous voyez dans le monde, aussi bien en Afrique qu'en Asie, les révolutions, les putsch, n'est-ce pas, les militaires, n'est-ce pas, les travaux de sape, n'est-ce pas, les propagandes. Ici, vous avez un peuple qui a confiance dans ses chefs, qui suit ses chefs, et des chefs qui sont à la hauteur et qui l'ont montré. C'est ce qui fait la force, n'est-ce pas, de ce régime et l'importance de ses réalisations.
وخرجت نسطح نسطح منسطح نسطح حتى ليل ها جات تلقى هكا حيط قصير هبطت منه وبدات تجري وتتلفت وقالت هذه البلاد هذه
il y a deux séquences Bourguiba et ensuite après la voix de ma mère et vous avez eu raison. Je ne sais pas par quelle voix vous avez pu associer ces deux, mais vous avez pleinement raison de les avoir associés. Ma mère était une conteuse qui avait une bibliothèque extraordinaire. Elle raconte des histoires qu'on peut trouver des mille et nuits, mais quand elle raconte une histoire, elle peut la raconter 10 fois et elle est jamais la même, avec des contes qui pouvaient durer plusieurs nuits et qui endorment tout le monde. Mais
vous diriez ça de la voix de Bourguiba aussi ?
Je dirais que Bourguiba est quelqu'un qui a su avoir un récit pour son peuple.
Et endormir tout le monde aussi ?
Parfois. Parfois, mais il a donné quelque chose à travers ce récit Et c'est ça qui manque peut-être aujourd'hui aux grands dirigeants de ce monde. Seuls les grands récits peuvent introduire les peuples dans le monde où ils sont. Et Bourguiba avait une idée très précise de la façon dont il voulait introduire son peuple dans le monde moderne, tout simplement. Et il a su lui raconter ça pour l'entraîner. Et ça, c'est ce qui a fait que la Tunisie est un des pays les plus modernes et qui a pu faire cette révolution démocratique dans laquelle il est aujourd'hui. Et c'est grâce à lui.
Fethi Ben Slama, si je vous dis Paris, 1972, rue Homer, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors, j'ai une histoire absolument extraordinaire avec la rue Homer. C'est pas Homer, c'est pas l'écrivain, mais c'est la rue Homer qui se trouve dans le 4e arrondissement. J'ai décidé de partir de Tunisie. Mon père n'était pas d'accord avec moi. Très mal vécu mon départ. Mais moi, j'avais décidé de partir. Et finalement, au dernier moment, il me dit, voilà, je te donne une adresse. Au cas où tu as besoin, j'arrive, je ne savais pas où aller. Et je vais à rue Homer en pensant que je vais trouver quelqu'un qui va me donner une indication sur un hôtel. Et là, d'abord, je monte des escaliers à l'époque extrêmement délabrés. Il y avait 4 marches détruites et je toque sur la porte et un homme que je ne connais pas m'ouvre et qui vivait dans une pièce tellement étroite qu'on ne pouvait pas se tenir les deux en même temps et dans laquelle il y avait 2 lits superposés. Et en fait, mon père m'a dit, voilà, c'est un homme qui travaille dans la banque, mais on ne lui a pas dit qu'en fait, c'était quelqu'un qui nettoyait la banque. Mais cet homme m'a accueilli avec une telle gentillesse. Il s'est mis à me préparer le dîner. Je ne pouvais pas refuser. Et après, bon, il m'a demandé de rester. Il faisait tard. Et donc, j'ai dormi dans ce lit superposé, dans une toute petite pièce. Et dans cette rue, il y avait à l'époque des bistrots algériens qui, avec la musique jusqu'à 4 heures du matin. J'ai eu l'impression que je n'ai pas quitté le Maghreb. Et voilà, dans des conditions qui étaient quand même une insomnie, pendant laquelle je me disais, mais c'est ça, j'arrive à Paris et je tombe dans ce taudis. J'ai eu très peur que ça initiait un début de vie en France qui serait vraiment mauvais. Mais ce n'était pas le cas. Le lendemain, tout a changé.
حين نطلب منك أن تقرأ الحروف الأبجدية بأي لغة
Dans quelle langue dites-vous votre alphabet ?
Ah. Aujourd'hui, je le dis en français. Parce que c'est devenu ma langue de travail, mais c'est devenu ma langue de tous les jours. C'est la langue de la vie, c'est la langue aussi de l'amour. De 72, vous voyez combien d'années. Ouais. Donc, ça finit.
Mais vous avez commencé par un drôle de rapport avec la langue française. Ça a commencé par une sorte de détestation ?
Absolument. J'ai détesté la langue française parce que je crois qu'elle concurrençait. D'abord, elle nous a été très mal enseignée par des coopérants qui nous l'enseignaient comme de la plomberie. En fait, on dirait qu'ils n'avaient qu'une seule idée, c'est nous dégoûter de la langue, avec beaucoup d'arrogance. Et donc, j'ai eu du mal à l'apprendre. Et ensuite, je crois que la langue arabe que j'aimais beaucoup, la langue des poètes, eh bien, elle était jalouse, je crois. Elle ne voulait pas me laisser adopter une autre langue.
Et possessive.
Possessive. Il y a une jalousie de la langue, vous savez.
Donc vous n'avez pas laissé rentrer des possibles
juste...
tentations littéraires, poétiques, françaises.
Non. Jusqu'au moment où, un jour, je rencontre dans une église désaffectée, dans la Médina de Tunis, une femme qui récitait des vers d'une saison en enfer de Rimbaud. Et là, vraiment, c'est le choc. C'est le choc de ma vie. Parce que tout à coup, je me suis aperçu qu'il y avait une langue dans laquelle on pouvait dire quelque chose.
La vieillerie poétique avait une bonne part dans l'alchimie du verbe.
Exactement. Voilà.
Rimbaud. Est-ce que vous diriez que vous avez vécu une sorte de métamorphose anthropologique, j'ose le terme, en passant de Adonis pour la poésie arabe, à Rimbaud, en quittant la Tunisie pour la France.
C'est vrai qu'Adonis est celui qui, pour moi, m'a introduit dans la poésie arabe moderne. Adonis lui-même est imprégné de Rimbaud, de Saint John Perse, des grands poètes. Et au fond, la rencontre avec Rimbaud a été, disons, assise. Rimbaud dit dans ce vers, j'ai assis la beauté. La beauté est toujours assise sur quelque chose de plus ancien. Elle ne surgit pas comme ça, toute seule, parce que sinon on ne reconnaîtrait pas en quoi elle est une beauté. C'est qu'on a déjà rencontré.
Bon, à part Rimbaud, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même d'autres portes d'entrée dans ce monde occidental pour vous, Fethi Ben Slama, un certain Jean-Sébastien Bach.
Oui, une anecdote. Quand j'ai rencontré Jean-Sébastien...
C'est vrai que votre mère a bien travaillé, hein, votre mère conteuse.
Mais justement, c'est une anecdote où il s'agit de ma mère. C'est un de mes amis au lycée, me donne un disque de Jean-Sébastien Bach, je l'amène à la maison, et ma mère vient. Ma mère qui ne connaît pas la musique occidentale, et elle me dit, mais on dirait que ça tombe du ciel. Donc l'impression d'une femme qui ne connaissait pas la musique occidentale et qui reconnaît chez Jean-Sébastien Bach quelque chose de divin.
Aïma, aïma.
Voilà.
On est à la fois 20 000 lieues sous les mers et dans la Dolce Vita avec RFI et Bach qui a pas mal habillé des films avec sa toccata et fugue en ré mineur pour un sol majeur. Merci pour cette porte d'entrée dans votre monde, Fethi Ben Slama.
Comme totem et tabou.
Comment vous êtes tombé dans le chaudron de la psychanalyse ?
Par hasard. Un jour, je me promenais dans la médina de Tunis et j'étais dans une sorte de spleen et j'ai trouvé l'interprétation des rêves de Freud traduite par Mostapha Safouan. Et lorsque j'ai lu ce livre, ça a été vraiment un séisme. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui est véritablement une sortie pour moi du monde de la tradition. Mon père interprétait les rêves. Les Arabes étaient vraiment des grands interprètes des rêves. Et quand je suis tombé sur ce livre de Freud, tout à coup, l'interprétation des rêves est devenue un livre d'antiquité, en fait. Et j'étais ébloui par la vérité de ce qui est dit dans ce livre.
À quelle vérité vous faites
référence? Des vérités intérieures, des vérités de mes fantasmes, de tout ce monde intérieur qui recevait des significations proches de ce réel qui est le mien. Et donc c'est à partir de là, j'ai voulu faire de la psychanalyse et je suis parti pour la psychanalyse.
Alors vous êtes un peu l'homme des liaisons dangereuses, Fethi Ben Slama, entre la culture arabo-musulmane et ce concept occidental de la psychanalyse que vous mariez. Et on croit savoir que la psychanalyse a encore assez peu droit de cité dans les pays musulmans, même si ça existe. Oui. Est-ce qu'il y a, vous diriez, des conditions pour que la souffrance psychique soit traitée de façon scientifique?
La condition, c'est d'abord, il faut qu'il y ait un savoir scientifique sur l'âme humaine, c'est-à-dire qu'en fait ça passe d'abord par la psychiatrie. Il faut qu'il y ait une psychiatrie à l'intérieur de ces pays. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on quitte petit à petit les théories démonologiques, c'est-à-dire que les démons commencent à se dédémoniser, qu'on ne croit plus tellement aux démons. Moi j'ai eu des gens qui ont fait une analyse et qui croyaient encore aux djinns un peu. Et c'est à ce moment-là, on peut commencer à avancer, à mettre de l'intérieur ce qui est mis de l'extérieur.
Oui, à
l'extérieur.
Admettre qu'il y a un démon intérieur.
Intérieur, voilà. Sinon, les démons sont intéressants, parce que souvent, ils sont représentatifs des pulsions humaines. Et l'autre condition, c'est un état de droit qui fait que ce que je peux échanger avec quelqu'un...
Dans le cadre d'une analyse.
...sont garanties qu'ils ne vont pas être utilisés contre moi. C'est donc une parole vraiment qui reste
secrète
et qui ne peut pas être violée ou être utilisée contre quelqu'un. Ça commence par là.
Alors bien sûr, chaque histoire évidemment est différente et j'ai envie de dire chaque génération porte un peu sa croix. Est-ce que vous, en tant que psychanalyste, vous tenez compte du fait que la psyché, on va dire maghrébine ou africaine, a été visitée sur des générations et violentée par l'histoire coloniale et que ça fait des mauvais petits jusqu'à aujourd'hui?
Alors oui, ça c'est une question majeure. Je crois que les traumatismes collectifs, historiques et qui ont duré dans le temps ne disparaissent pas comme ça. Et qu'ils viennent se rappeler chaque fois qu'il y a des blessures actuelles. Et je crois qu'en effet, la France n'a pas encore mis au travail et reconnu ce qu'il y a dans le colonialisme, comment il a pu être une blessure pour beaucoup de peuples. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, non plus. Je crois qu'il n'y a pas eu le travail sur ce que le colonialisme a amené avec lui et sur à la fois la part meurtrissante ou qui a traumatisante, mais aussi ce que le colonialisme a malgré tout amené dans la conscience que nous avons du monde moderne.
Ce qui s'appelle balayer. Faire la part des choses.
Faire la part des choses et surtout voir qu'il y a une double face. Et que si on s'en tient uniquement à la face sinistre, eh bien on ne s'en sortira pas. Parce que finalement, on a vaincu le colonialisme par ce que la culture des droits, d'où vient le colonialisme. Mmh. Donc il ne faut jamais oublier ça.
Où l'on croise forcément dans votre en sol majeur, Fethi Ben Slama, un ami, je ne sais pas, en tout cas quelqu'un que vous avez croisé, un certain Jacques Derrida, philosophe, qui évoque au micro de Laure Adler sa naissance et son nom, Derrida.
Je suis né en 1930 à El Bihar, qui est un faubourg d'Alger. Et je ne suis venu en France, en métropole, comme on disait alors, qu'en 1949, c'est-à-dire à l'âge de 19 ans. Donc je suis une espèce d'étranger, enfin en tout cas d'immigré, et avec de profondes racines algériennes, oui. Et il m'est arrivé de dire que, alors ça paraît, je suppose, un certain indécent, que j'aime ce nom. Mais ce qui m'autorise à l'aimer et à le dire, c'est que d'une certaine manière, comme c'est le cas pour tout nom propre, ce n'est pas vraiment le mien, c'est pas quelque chose que je peux m'approprier, n'est-ce pas? C'est un nom qui m'a été légué. Le nom propre est aussi une appellation qui nous tombe dessus et qu'on ne peut pas s'approprier. Malgré tous les mouvements narcissiques, d'obestication, de réappropriation, il est toujours au-delà, transcendant d'une certaine manière. Alors, je l'aime en tant que tel, en tant qu'il ne m'appartient pas. En tout cas, je suis responsable devant lui. Mais aussi, probablement, à cause de sa sonorité, de ses lettres, de ce qu'il a, de vidéos hispano-arabes. Je l'aime comme les lieux dont je viens.
Nom Derrida, donc prénom Jacques sur RFI. Derrida, que vous avez croisé de près, Fethi Ben Slama?
Plus que croisé, c'est une des plus belles rencontres de ma vie. Pas seulement que rencontre intellectuelle, qui a peut-être sauvé une partie de la pensée de Heidegger, c'est-à-dire débarrassé d'un certain nombre de poids, mais aussi humainement. Et cette reconnaissance de la place de l'autre en lui et avec lui, qui est une des choses les plus extraordinaires. Moi, je dis que c'est une des plus belles rencontres humainement. C'est un homme beau à tous les sens du terme.
Et vous, je vais vous retourner la question, Fethi Ben Slama, est-ce que vous l'aimez, votre nom ?
Oui. J'ai pensé que le Ben, qui ça veut dire le fils, c'est...
Le fils du salut.
Le fils du salut, de la paix. Et quand j'ai commencé à écrire, il m'a semblé que ce Ben espace Slama ne convenait pas. Et qu'en fait, ma place, c'était de rattacher ça. Et j'ai commencé donc à l'écrire attaché. Bourguiba avait initié ce mouvement-là, mais il a été un peu oublié en Tunisie. Contracter, d'en faire un patronyme. Et de ne pas laisser ce Ben flottant avec le...
Avec la porte ouverte.
Voilà.
Sur avec les interprétations.
Non, mais vous avez raison. Et en fait, quand je suis entré dans l'écriture, j'ai fait le lien. Et je pense que j'ai essayé d'assurer quelque chose de mon rapport en tant que fils. Voilà, de ce signifiant qui veut dire la paix, le salut, enfin, etc. Alors, oui, j'aime mon nom.
Est-ce que Ben Slama se vit comme un franco-maghrébin ou comme un maghrébin francophone ?
Je suis d'abord quelqu'un aujourd'hui qui ne s'appartient plus à lui-même. Je suis prêt
Vous
à
êtes
être...
plein de lyrisme. Hein.
Non, pas du tout. Je n'ai pas de revendication identitaire propre à moi. Et j'aimerais un jour que ce qu'on appelle le Maghreb soit une vraie réalité politique. Je crois que...
Vous voulez dire quoi? Que votre parti maghrébine n'a pas d'affiliation possible?
Elle ne repose pas sur quelque chose de... C'est le politique qui fait de nous un membre d'une communauté.
Donc vous ne pouvez pas vous penser en tant que maghrébin?
Quand je vais au Maghreb, je me sens comme ça, parce que je me sens chez moi, partout. En Algérie, au Maroc, partout, en Tunisie bien sûr. Je n'ai aucun problème pour me sentir du pays où j'arrive. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais politiquement, je suis citoyen français. Politiquement, aujourd'hui, je peux être citoyen tunisien depuis la Révolution, parce qu'avant, je n'ai jamais voté en Tunisie. Et si demain, on m'offrait une autre citoyenneté, algérienne ou marocaine, je la prendrais. Et donc, je ne suis plus tellement touché par ces questions d'affirmation ou de revendication identitaire. J'ai l'impression que ça me donne beaucoup de liberté. Bon. J'ai l'impression aussi que je ne récuse pas les gens qui ont besoin de cela, à condition que ça soit...
Vous les soignez même beaucoup.
Oui, à condition que ça soit une identité réfléchissante, c'est-à-dire qu'elle réfléchit sur elle-même.
Un sol majeur at rfi.fr.
À lire aux éditions du Seuil, un furieux désir de sacrifice, Le surmusulman. Et puis il y a un autre livre que vous avez sorti récemment, coécrit avec Fahad
Khosrokova.
Merci, je vous remercie. Le djihadisme des femmes, pourquoi elles ont choisi Daesh. Pour finir sur une note hybride, puisque ce sera finalement le mot de la fin, vous êtes quelqu'un d'hybride, vous votez pour ça. On va convier en sol majeur Ravi Shankar, compositeur de sitar indien, avec Yehudi Menuhin, violoniste juif américain. Ça, c'est le mariage idéal pour vous?
Ah, absolument. Sur cette rencontre s'est créé tout un courant, aujourd'hui musical, qui cherche cette hybridation, mais hybridation dans le plus haut que les êtres humains peuvent produire.
sol majeur plein de tenderness avec Facebook, Twitter. Chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, toujours un peu de tendresse, c'est toujours bon à prendre. On vous retrouve la semaine prochaine avec Karim Katan. À la semaine prochaine.